La fermeture de la maison de la Nouvelle-Calédonie est actée, décision prise lors du dernier conseil d'administration. 5 policiers étrangers de la région se forment dans Calédonie. L'Académie du Pacifique poursuit son action. 10 mois de service national sur la base du volontariat. Emmanuel Macron l'a confirmé cette nuit. Ce nouveau service sera mis en place dès l'an prochain. En Gironde, le Parti Socialiste veut interdire un gala caritatif au motif que l'un de ses promoteurs est classé à droite. Et puis en sport, Lyon et Lille cartonnent en Ligue Europa. L'OL a battu le Maccabi Tel Aviv 6-0 et Lille s'impose 4-0 sur Zagreb. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Vous retrouverez évidemment à l'issue de cette édition, comme tous les vendredis, le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Vous recevrez cette semaine Alcide Ponga.
Oui, c'est le président du gouvernement qui sera ce midi l'invité de Transparence. Nous reviendrons avec lui sur ses déplacements dans la région Pacifique et notamment en Polynésie française, mais aussi sur les sujets d'actualité comme le transfert d'Air Calatontuta ou la préparation du budget de la Nouvelle-Calédonie notamment. Et puis nous l'interrogerons aussi sur l'accord de Bougival dont il est l'un des signataires et sur la consultation anticipée de la population proposée par la ministre des Outre-mer. On se retrouve donc d'ici une petite demi-heure en compagnie du président du gouvernement, Alcide Ponga.
Autre rendez-vous du vendredi, c'est le Club politique Radio Rythme Bleu à 16h45.
Et au sommaire ce soir, le projet de loi sur la consultation des Calédoniens sur l'accord de Bougival et les réactions qu'il a d'ores et déjà suscitées. Nous reviendrons aussi sur la mission de Thierry Lattaste et de Benoît Lombrière, mission qui a été reportée sans doute de quelques jours. Nous parlerons également du comité directeur de l'Union calédonienne et de la décision du Conseil d'État qui a débouté l'UC des requêtes qu'elle avait formulées contre la publication de l'accord de Bougival. Voilà pour le menu de ce Club politique. Rendez-vous à 16h45.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier. 78% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent satisfaits que le transfert d'Aircal vers l'aéroport de Tontouta ait été officialisé et fixé au 2 mars 2026. Ils sont 22% à ne pas être satisfaits par cette décision. Et puis voici notre question du jour. Le parquet a-t-il raison, selon vous, d'ouvrir des enquêtes sur des frais de déplacement trop élevés d'élus de la Nouvelle-Calédonie et des provinces? Si vous pensez qu'il a raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La fermeture de la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris a été actée hier par son conseil d'administration. L'information ne devait pas être rendue publique, mais il y a eu des indiscrétions. Cette décision n'est pas vraiment une surprise, tant les comptes de la structure étaient dégradés. La fermeture devrait être effective dès 2026. Reste que les coûts de fermeture seront très élevés et qu'ils devront être pris en charge par les collectivités calédoniennes. Il faudra aussi trouver une solution de remplacement parce que la maison de la Nouvelle-Calédonie, qui avait été créée en 1989, a fait la preuve de son utilité et qu'elle est devenue quasiment indispensable, notamment pour les étudiants ou les malades calédoniens à Paris. Rappelons que depuis 3 ans, la province sud a mis en place le bureau de l'accompagnement des étudiants. Il prépare les boursiers et les non-boursiers lors de leur départ pour les études en métropole et s'occupe également de la prise en charge de leur arrivée. 18 mois après les violences insurrectionnelles de mai 2024, le tribunal administratif est saisi de plusieurs recours qui mettent en cause la responsabilité de l'État. La compagnie d'assurance Allianz, qui a indemnisé 14 entreprises détruites pour un montant global de 16 milliards, se retourne contre l'État, à qui il reproche de ne pas avoir rempli son devoir de protection, Nicolas Legrand.
Oui, l'audience a permis de revenir sur le déroulement des faits. Les avocats des assureurs ont estimé que l'État n'avait pas pris la mesure de la crise, malgré les alertes qui avaient été lancées. Le représentant de l'État a invoqué de son côté la difficulté à acheminer des renforts en raison de l'éloignement, mais aussi de la proximité des Jeux Olympiques qui avaient mobilisé les forces de l'ordre en métropole. Il a aussi affirmé que personne ne pouvait prévoir l'ampleur de l'insurrection. Dans ses conclusions, le rapporteur public a estimé que l'État était en faute et a demandé sa condamnation ainsi que le remboursement des sommes versées par l'assurance à hauteur de près de 3 milliards de francs. Le jugement a été mis en délibéré à la mi-décembre.
Les pompiers de Nouméa ouvrent leurs portes demain. Ils accueilleront le public à la caserne Lucien Parent au centre-ville. L'objectif est de partager leur passion en montrant leur matériel ou leur technique d'intervention. Une rencontre souhaitée par les soldats du feu après une année 2024 extrêmement compliquée pour eux, avec un nombre important d'interventions, surtout une multiplication des faits de caillassage et d'agression. Aujourd'hui, les choses sont pratiquement revenues à la normale, même si des troubles persistent dans certains quartiers de la ville. Le lieutenant-colonel Géraldine Bourgoin, chef de corps des pompiers de Nouméa, a été notre invité ce matin à 7h30.
C'est revenu à peu près à la normale dans le sens où on va partout. dans tous les quartiers, ce qui n'était pas le cas pendant les émeutes, et ce qui a été très difficile à vivre pour nous, puisqu'on nous empêchait d'aller porter secours. C'est même une première pour nous tous. Là, on retourne partout. Par contre, il y a encore quelques petits quartiers où on est obligé, effectivement, d'être escorté par les forces de l'ordre, et particulièrement la nuit, pour éviter de se faire caillasser. Avant, on était sur un caillassage à peu près à une fois par an, et malheureusement, on est quand même aujourd'hui sur un ou deux par mois.
Comment le vivent les pompiers?
Très mal, très mal. C'est complètement une incompréhension pour nous. On vient porter secours et on se fait caillasser. Ça retarde nos interventions, ça met en danger, moi, mes équipes. Et potentiellement, quand je dis ça retarde, ça veut dire que si la situation est vraiment trop dangereuse, on a ce qu'on appelle un droit de repli. Donc on va se replier le temps que les forces de l'ordre sécurisent pour après pouvoir intervenir. Donc c'est tout un temps qui est perdu pour la victime et les gens qui nous ont appelés.
Cette journée porte ouverte au centre Lucien Parent de Nouméa se déroulera de 9h à 16h demain. L'entrée se fera par l'avenue Foch. Une journée similaire est organisée au centre de secours de Dumbéa. Le feu, justement, sur le point d'être éteint à l'ISD de Pointe-Boute. Un engin de la DSCGR et un autre du CIVOM VKP sont sur place pour traiter les derniers points chauds qui fument. Une surveillance sera organisée ce week-end pour éviter tout risque de reprise. La semaine prochaine, les équipes devront intervenir pour réparer la membrane du site de stockage des déchets non dangereux. Selon nos informations, il s'agirait d'un incendie accidentel. Une cérémonie du souvenir ce matin à la tribu de Quirgoa pour commémorer le crash de l'hélicoptère de la SMSP. C'était il y a 25 ans, le 28 novembre 2000, et 7 personnes avaient trouvé la mort dans l'accident. L'état-major de la SMSP avait été décimé avec la disparition de son PDG, Raphaël Pidgeot, et de 3 de ses directeurs, Jean-Pierre Lapousse, Jean-Pierre Gastaldi et Régis Vivier. Le pilote de l'hélicoptère et de 2 représentants de Falcon Bridge figuraient également au nombre des victimes. La SMSP a réalisé une vidéo en hommage à ces disparus à l'occasion du 25e anniversaire de cette tragédie. Le Black Friday a débuté aujourd'hui. Pendant 3 jours, les commerçants vont solder leurs produits en magasin. Malgré le contexte économique compliqué, ils jouent le jeu en proposant des remises de 10, 20, parfois 50%. Ils espèrent que les Calédoniens en profiteront malgré une baisse de leur pouvoir d'achat depuis l'an dernier. C'est ce que disait le vendeur du magasin Hotspot en centre-ville.
Black Friday et les soldes, c'est fait un petit peu pour se déstocker. Et surtout, redonner un peu de pouvoir d'achat, permettre aux gens de pouvoir se faire plaisir. Ah oui, clairement, comme chaque année, enfin même pour les soldes aussi, on pense que c'est très important pour nous, en tout cas, de redonner du pouvoir d'achat aux gens, surtout en ce moment. C'est un peu le mot là qu'on entend un peu partout, c'est compliqué, c'est la crise, enfin il y en a beaucoup d'autres. Et donc on décide à chaque fois de jouer le jeu pour faire plaisir à nos clients et un peu à tout le monde aussi.
Dès ce matin, les clients attendaient avec impatience l'ouverture des boutiques. C'est évidemment l'occasion pour eux de trouver des bonnes affaires, mais aussi de faire des cadeaux de Noël à petit prix.
Tout à fait, on profite des bons plans. Donc surtout pour les enfants, voilà, le réapprovisionnement, les petits cadeaux de Noël aussi en même temps, par la même occasion. Ah oui, ça fait toujours du bien. Et puis bon, les commerçants jouent le jeu, donc c'est très bien pour nous et pour eux voilà, aussi. Je pense que ça permet d'écouler leur soc aussi.
On va dire qu'on profite effectivement de cette date pour faire quelques achats. C'est un peu pareil tous les ans aussi. Principalement pour cadeaux. On essaye de calculer cette date-là pour vraiment faire les cadeaux.
Le Black Friday a donc débuté aujourd'hui. Il se poursuit tout le week-end. 11h39, la première pause de ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio, aux 4 rue de Sébastopol, vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'ensemble des forces de l'ordre du territoire sont rassemblées cette semaine pour une formation. Trois formateurs spécialisés venus de Métropole, de l'Académie de police, ont pour objectif de renforcer les compétences opérationnelles des policiers, gendarmes et pompiers locaux dans la gestion de situations sensibles. Écoutez le commandant Ludovic Delenclos, chef de la division des centres nationaux.
L'idée, c'était de pouvoir faire travailler plusieurs entités ensemble, toujours dans une logique de sécurité. D'abord des policiers de différents services entre eux et ensuite intégrer les sapeurs-pompiers dans le cadre de leur mission de secours aux personnes ou de lutte contre les incendies. On a également intégré cette fois-ci dans les exercices l'utilisation des drones par exemple pour pouvoir faire du repérage avant d'envoyer des personnels policiers dans des secteurs qui sont difficiles. On a deux policiers vanuatais, deux policiers fidjiens et un policier australien qui sont là dans le cadre de l'Académie du Pacifique. Donc ils sont là pour observer principalement les techniques que nous on met en œuvre au profit des policiers français et calédoniens pour le coup. Et on est là dans un échange de bonnes pratiques en fait. Voilà.
Cette formation est donc une première sur le plan régional, puis elle se fait dans le cadre de l'Académie du Pacifique et accueille 5 policiers étrangers, vous l'avez entendu, 2 Fidjiens, 2 Vanuatais, 1 Australien qui participe en tant qu'observateur. Liteauia est un policier vanuatais.
It's a pleasure to be here in Nouméa.
C'est un plaisir d'être ici à Nouméa.
Learning from what the French police they teach here and what we learn from Vanuatu back in Vanuatu.
Pour apprendre de la police locale et retourner au Vanuatu avec de nouvelles techniques.
We learn a lot from different trainings.
Durant la semaine, nous avons pu observer de nombreuses méthodes d'entraînement, des techniques très intéressantes pour appréhender différentes situations difficiles.
Et la semaine de formation s'est terminée ce matin par un exercice grandeur nature de troubles à l'ordre public. 6 jeunes Calédoniens ont reçu leur coiff aujourd'hui. Elle marque le début de leur engagement au sein de la marine. Ils ont fini aujourd'hui leur cours de formation des matelots, Charlotte Coulson.
Un bâchis pour les hommes et un tricorne pour les femmes. Cette coiffe qui complète la toute nouvelle tenue de ces jeunes matelots. Il y a 6 semaines, ces Calédoniens, âgés de 18 à 21 ans, ne connaissaient rien à la vie sur une base militaire ni au monde de la marine. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont reçu leur brevet d'équipage après une formation. Ils étaient notamment encadrés par la capitaine de corps Céline Desnaux, capitaine de compagnie et responsable du cours de formation matelot.
Alors c'est vrai qu'ils arrivent un petit peu intimidés et avec un peu d'appréhension parce que finalement c'est un peu une découverte. Et au final, avec les instructeurs voilà, qu'ils accompagnent tout au long de ces 6 semaines, ils découvrent la vie militaire, la vie marine aussi, maritime. Et puis ils font des formations aussi sécurité, défense. Donc on leur fait faire des petits stages en bivouac par exemple. Là ils ont fait une nuit en bivouac avec les fusiliers marins. Ils ont une formation aussi portuaire. Donc vous apprenez à naviguer. Et puis après, il y a tout le parcours, on va dire, sécurité incendie, où on leur apprend leur rôle d'intervention en cas de sinistre.
Les 6 matelots ont donc reçu leur brevet d'équipage au cours d'une cérémonie présidée par le capitaine de vaisseau Julien Faure, commandant de la base navale. Il a récompensé chaque jeune, particulièrement Irmaël Lalu, le major de promotion de la formation de matelots 2025.
J'ai appris beaucoup de choses pendant ces 6 semaines. Ça a été surtout la première semaine où ça a été dur de passer d'un civil à un militaire. On s'est bien amusé. Je suis content. Franchement, j'aurais aimé que la formation dure un peu plus longtemps, juste pour en profiter un peu plus. Comme là, on recommence le travail dès lundi et ce sera peut-être plus dur, plus simple, on ne sait pas encore. On va découvrir. C'est ça qui est bien avec la marine, c'est qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Et du coup, moi, je suis sur le Vendémia. Mais comme il est en mission, du coup, je vais être d'abord à la cantine jusqu'à que le Vendémia il revienne. Et après, de là, je serai sur le Vendémia, affecté sur le Vendémia. J'ai hâte que le Vendémia il revienne et que je découvre la vie à embarquer. Ce serait franchement bien.
Il débute donc une première expérience professionnelle de 2 ans au sein de la Marine nationale. Et s'il souhaite poursuivre, ces jeunes devront aller en métropole pour une formation plus poussée.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h44.
La littérature sera à l'honneur demain à l'occasion du SAO, le Salon des auteurs OFF. Il réunira les auteurs calédoniens qui présenteront leurs ouvrages. Et parmi eux, Vincent Nebois qui a publié aux éditions Les Impliqués un livre intitulé « Vivre en cendres ». C'est la première fois qu'il prend la plume pour raconter ce qu'il a vécu avec sa famille pendant les émeutes de 2024.
C'est un livre dont on peut dire qu'il s'est imposé à moi. J'ai entamé son écriture le 24 mai 2024, donc au cœur des événements. J'habite à la Vallée du Tir. J'ai voulu effectivement être le narrateur de ce qui se passait, principalement dans mon quartier. C'était là où je vivais, c'est ce que j'avais envie de raconter. Et ça a été aussi l'occasion, mais ça s'est presque imposé à l'écriture, de dire des choses sur moi, de dire ce qui était important pour moi, de revenir sur des faits qui finalement n'avaient pas grand-chose à voir avec les émeutes, mais qui ressurgissaient en ce temps d'émeute, justement.
Un travail nécessaire, ajoute Vincent Nebois, d'abord pour lui et sa famille, mais aussi pour l'électeur et pour rétablir une certaine vérité.
Ça a été nécessaire, ce travail d'écriture. Et moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, à travers les témoignages que m'on donne des lecteurs, c'est que je vois qu'eux-mêmes considèrent que ce travail était nécessaire pour eux, que c'était un travail de mémoire. On a eu l'impression que les médias français avaient une vision de ce qui se passait qui était bien différente de celle que nous vivions et ressentions dans l'intérieur. Moi, j'ai rencontré des journalistes dans le cadre de mon métier aussi à ce moment-là, et j'avais envie de livrer une perception qui était la mienne, mais jamais dans un état d'esprit qui serait celui d'une quelconque haine, mais pas du tout. J'ai voulu dépasser ça, je suis jamais dans le jugement. Enfin, en tout cas, j'espère ne pas l'être, mais l'idée, c'était effectivement de rendre compte le plus justement possible au quotidien de ce qui nous a traversé quand même pendant 3 mois.
Un récit qui fait mouche auprès de ses lecteurs, quels qu'ils soient.
Mon père a lu ce livre maintenant il y a 3 semaines, 1 mois, et il vit en France, il a 88 ans. Et quand je l'ai eu pour la première fois en ligne juste après, il était en pleurs et il m'a dit « J'ai compris à la lecture de ce livre que vous nous avez menti pendant plusieurs mois pour nous protéger ».
Vincent Nebois, auteur du livre intitulé « Vivre en cendres », disponible à la librairie Calais de Livres. Ce sera l'un des auteurs qui sera présent samedi au SAO.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et oui, ça continue. On vous voit tous les jours venir à la radio, 4 rue de Sébastopol, entre 7h et 19h, pour déposer vos cadeaux. Vous savez, des jouets qui seront distribués à toutes les familles en difficulté pour Noël grâce à nos associations partenaires, Secours catholique, Saint-Vincent-de-Paul, Croix-Rouge, mais aussi la Table ronde française. Vous pouvez aussi déposer vos cadeaux au magasin Petit Dôme, qui est partenaire de cette opération. Votre générosité se manifeste chaque jour. On vous remercie bien évidemment de votre engagement pour cette opération qui se poursuit. Vous pouvez aussi évidemment passer à la radio le week-end. Nous vous attendons avec beaucoup de plaisir. Il est 11h47, une nouvelle pause et on se retrouve pour évoquer l'actualité dans la région et en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le jeu McFamily Voyage revient chez McDonald's du 18 novembre au 12 janvier. Collectionnez les cartes McFamily et tentez de gagner plus de 6 millions de francs de cadeaux. Au programme, 3 voyages de rêve à Tahiti, en Thaïlande et à la Gold Coast. Mais aussi des PC, des Samsung S25, des Nintendo Switch 2, des Boombox et des milliers de produits McDonald's. Alors, prêt à tenter votre chance? Rendez-vous dans votre McDonald's préféré.
Événement littéraire à la Mirauté, le samedi 29 novembre de 9h à 16h. Le deuxième SAO, Salon des auteurs en off. Débat sur la place des femmes à 9h30. Débat sur la géopolitique de la Nouvelle-Calédonie et l'Indo-Pacifique à 14h. Conteurs, ateliers d'écriture, stand-up, lecture, exposition de Stéphane Foucault, vente de livres, dédicaces avec 35 auteurs présents le samedi 29 novembre à la Mirauté. Viens croquer un SAO et dévorer un bon livre. Entrée gratuite.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag, en retour Jean-François Bodin.
En Polynésie française, les recherches ont été interrompues après le glissement de terrain qui a touché la commune de Afaiti sur l'île de Tahiti. Les corps des 8 personnes portées disparues ont été retirés des décombres des 2 maisons qui ont été ensevelies par la coulée de boue. Dans un communiqué, la Nouvelle-Calédonie adresse tout son soutien et sa solidarité à la population polynésienne frappée par ce glissement de terrain. Nos pensées accompagnent les familles touchées ainsi que l'ensemble des équipes de secours engagées dans les opérations de recherche et de sécurisation de la zone. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie met lui à disposition de la Polynésie française un appui technique immédiat. 2 géologues de la DIMINC spécialisés dans les mouvements de terrain se sont envolés ce matin afin de soutenir les autorités polynésiennes dans l'évaluation du terrain, l'analyse des risques résiduels et l'accompagnement des opérations en cours. Le gouvernement affirme que la Nouvelle-Calédonie reste mobilisée pour adapter son soutien en fonction des besoins exprimés par les autorités polynésiennes. Venons-en maintenant au retour du service national. Il est acté. Emmanuel Macron l'a annoncé lors d'un déplacement sur la base militaire de Vars en Isère la nuit dernière pour nous. Ce ne sera plus un service militaire obligatoire, celui qui a été supprimé dans les années 90. Il s'agira cette fois-ci de faire appel au volontariat des jeunes. Les explications de Jean-Luc Bougeon pour Europe 1.
Ce sera un service de 10 mois qui ne concernera effectivement que ceux qui le souhaitent, comme par exemple une année de césure à l'étranger dans un cursus universitaire, mais tout le reste sera très militaire avec des affectations dans différents régiments. Également une période d'un mois où les volontaires feront leur classe un peu comme avant, a expliqué le chef de l'État.
Nos jeunes du service national commenceront par une formation initiale d'un mois où ils apprendront ensemble les rudiments de la vie militaire. Ils acquerront l'esprit de discipline, se formeront au maniement des armes, à la marche au pas, au chant. Ils seront dotés d'un uniforme, d'une solde, d'un équipement.
Alors cette solde dont parle le président devrait avoisiner les 800 euros et ces jeunes ne seront pas envoyés au front, pas en Ukraine par exemple. Ils opéreront en fait uniquement sur le territoire national. Une nécessité face aux nouvelles menaces dans le monde qui répond aussi à un besoin de la jeunesse selon le président.
Notre jeunesse a soif d'engagement. Il existe une génération prête à se lever pour la patrie. Notre armée est le cadre naturel d'expression de ce besoin de servir. Notre nation sera forte si notre jeunesse est unie autour de nos valeurs.
3000 jeunes seront concernés dès l'été prochain, 10 000 en 2030, et l'objectif, c'est 50 000 volontaires à l'horizon 2035.
Notre jeunesse a soif d'engagement, il existe une génération prête à se lever pour la patrie, a déclaré le chef de l'État. Et si certains jeunes n'ont pas l'intention de s'engager sur cette voie, de nombreux autres accueillent plutôt favorablement cette annonce et sont même prêts à y répondre.
Moi, je suis plutôt pour et je pense que c'est une bonne décision. Quand on repense à tous nos ancêtres qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont pris les armes, etc., on se dit qu'il y a beaucoup moins de sécurité, que la plupart des gens sont plus prêts à prendre les armes. Donc, moi, ça me motive à reprendre les armes pour la patrie et juste à faire mon service militaire.
C'est le meilleur moyen de se sentir français. Parce que c'est montrer qu'on veut s'engager dans son pays, montrer qu'on serait prêt à tout, entre guillemets, pour cette France.
Et en vrai, c'est important, surtout vu le contexte, il y a une guerre.
On s'est tombé sur les Ukrainiens en février 2022. Je pense qu'il y en aurait certains qui auraient été contents d'être prêt à juste par exemple prodiguer des soins de premier secours ou à savoir créer un abri.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. L'actualité en métropole, c'est aussi cette nouvelle évasion. Deux détenus de la maison d'arrêt de Dijon, dont les cellules étaient voisines, ont réussi à s'échapper en sciant les barreaux de leurs cellules. Ces détenus étaient pourtant surveillés de près, mais les outils pour leur permettre de s'échapper leur auraient été fournis par drone. La maison d'arrêt de Dijon, l'une des plus vétustes de France, est aussi l'une des moins protégées. Une centaine de policiers sont à la poursuite des évadés au profil plutôt inquiétant. Le premier, âgé de 32 ans, est accusé de violence conjugale. Le second, 19 ans, est accusé de tentative de meurtre. Quand la gauche s'oppose à la tenue d'une soirée caritative, Bordeaux doit accueillir le 10 décembre prochain la Nuit du bien commun. Organisée dans toute la France depuis 2017, ces galas permettent de lever des fonds au profit des associations locales. Mais la Fédération Parti Socialiste de Gironde veut faire interdire ce gala au motif que l'un de ses promoteurs, le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin, est classé à droite. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Depuis plusieurs mois, le procédé se répète. Demande d'interdiction, pression en tout genre, voire même menace de mort. Plusieurs associations d'extrême gauche, syndicats et même certains partis politiques comme le PS cherchent à censurer la Nuit du bien commun. Ces groupuscules lui reprochent un supposé engagement politique à droite en raison de l'identité de l'un de ses fondateurs, Pierre-Édouard Sterrin. Là où le fonds de dotation revendique la pluralité des projets financés, liés par exemple au handicap, à la précarité, au patrimoine ou à l'éducation, le porte-parole de la Nuit du bien commun, Thomas Tixier.
Ces gens font énormément de mal parce qu'ils font peur au grand public, ils font douter les associations du bien fondé de nos intentions. Notre objectif est simple, nous voulons panser les plaies de la société en permettant à ceux qui ont les moyens d'aider les plus fragiles, les plus vulnérables, notre patrimoine. C'est là que nous portons notre action.
La dimension chrétienne est assumée au nom de l'altruisme et de la charité, même si la grande majorité des projets financiers n'ont pas de lien avec la religion. Les prochains événements doivent avoir lieu à Paris et à Bordeaux en décembre.
L'actualité à l'étranger, Vladimir Poutine réagit pour la première fois depuis la proposition du plan de paix proposé par Washington aux belligérants ukrainiens et russes. Après des négociations, ce plan a été amendé et le président russe fixe ce qui constitue pour son pays une ligne rouge.
Nous continuons de recevoir des propositions visant à mettre fin aux opérations militaires. Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire.
En clair, le président russe se dit prêt à un cessez-le-feu à la seule condition que le plan de paix reconnaisse la prise de territoires ukrainiens par la Russie. 11h54, une dernière pause avant de voir l'actualité sportive et de retrouver ensuite le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
C'est le Green Friday chez Jardiland. Les 28, 29 et 30 novembre, profitez de moins 15% sur tout le magasin et sur jardiland.nc grâce à votre carte de fidélité. Animalerie, fleurs, déco, mobilier de jardin, barbecue, piscine, transformez des petits prix en grand plaisir.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Dans la limite des stocks disponibles, hors service, promotion en cours et carte cadeau, voire conditions magasin.
La ville de Nouméa vous donne rendez-vous le samedi 29 novembre de 9h à 17h à la Maison de la Biodiversité à l'occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.
Vous aurez l'occasion de participer à des ateliers environnementaux axés sur le réemploi, la réparation et les produits à faire soi-même.
Les agents de la ville vous accueilleront sur leur stand de sensibilisation à la prévention des déchets et un spectacle de contes viendra clôturer cette journée.
Des ateliers gratuits pour créer autrement.
Retrouvez le programme complet avec les horaires et thématiques des ateliers sur notre site www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, avec du football pour commencer après les Ligues des Champions, place à la Ligue Europa. On jouait aussi la cinquième journée, Léo Fichou.
Et ce qu'on peut noter, c'est les belles victoires de l'Olympique Lyonnais et du LOSC. L'OL a renoué avec la victoire et avec la manière. Les Lyonnais se sont imposés 6-0 sur le Maccabi Tel Aviv. Lyon est donc premier du classement. De son côté, le LOSC s'est aussi imposé à domicile sur un score fleuve 4-0 face au Dynamo Zagreb. En revanche, Nice n'y arrive toujours pas et a perdu 3-0 sur la pelouse de Porto et pointe à la dernière place avec 5 défaites en autant de rencontres. On notera également qu'en Ligue Europa Conférence, Strasbourg a gagné sur sa pelouse 2-1 contre Crystal Palace qui avait pourtant ouvert le score à la demi-heure de jeu.
Et puis du padel sur le territoire ce soir, ce sera les demi-finales de la Casino Padel Cup.
Les parties débuteront à 18h toujours sur les pistes du TC Montcoffin, le tennis club du Montcoffin, avec la première demi-finale dames qui est prévue entre les Calédoniennes Wajgembom Michel contre la paire métropolitaine numéro 1 du tournoi. Dans la foulée, place à la première demi-finale homme qui opposera là aussi des Calédoniens, Nicolas Ngodrella, Lorenz Pesley contre les tenants du titre espagnol. Et puis place à la deuxième, seconde demi-finale dame qui opposera les Australiennes à la paire métropolitaine. Même duel chez les hommes pour terminer la soirée, les Australiens contre les métropolitains.
Merci Léo, 11h58, une pause dans cet infomag avant de retrouver le magazine Transparence. Je vous rappelle qu'Elisabeth Noir recevra dans un instant le président du gouvernement, Alcide Ponga.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.